Mais vous êtes où encore, Jean-Mike, là?
Mais attendez, je suis très demandé en ce moment, vous savez. Là, je suis en train de faire le doublage voix de Bob le Poivron, le nouveau dessin animé des studios Tricoué.
Mais c'est quoi encore ça? Bon, allez, dépêchez-vous. On est en pleine urgence, là.
Urgence? Mais on est à l'antenne dans 3 heures, non?
Mais vous n'êtes pas au courant? C'est l'urgence climatique, Jean-Mike. L'urgence climatique!
Bon.
Les grandes voix de l'UNESCO. Épisode 5. L'homme et la biosphère.
Bonjour Jean-Mike.
Bonjour Gabriela.
Aujourd'hui, on parle...
de l'écologie.
Ah, enfin ! Saviez-vous qu'en 1976, Alfred Kessler, physicien français, prix Nobel de physique, déclarait « Il n'est pas besoin d'être grand clerc, ni d'être très érudit en matière de prospective, pour comprendre que l'espèce humaine court à son suicide quand on voit la dégradation progressive de l'environnement naturel de l'être humain et la démographie galopante. »
Déjà en 1968, 200 à 300 délégués de plus de 60 pays se réunissent au siège de l'UNESCO à Paris pour, justement, jeter les bases scientifiques de l'utilisation rationnelle et de la conservation des ressources de la biosphère. Eh oui, l'espèce humaine ne se trouve plus devant une planète à conquérir, mais devant une planète à préserver. Et suite à cela, en 1971, l'UNESCO se voit confier le programme sur l'homme et la biosphère que l'on désigne en général par les initiales anglaises MAB, c'est-à-dire Man and Biosphere.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Au studio de la maison de l'UNESCO, je rencontre M. Michel Battis, directeur du département de l'environnement et des ressources naturelles. Monsieur, l'occasion de cette rencontre, c'est en fait la 4e session du Conseil de coordination du programme sur l'homme et la biosphère. Tout cela est très compliqué et cette session se tient donc en ce moment. Qu'espère-t-on exactement de cette session? Quelle est son utilité?
Bien, c'est une réunion du ce qu'on pourrait appeler le Conseil d'administration de ce programme MAB. On appelle le programme MAB. De ses initiales anglaises, Man and Biosphere, l'homme et la biosphère. Ce programme est un programme international, interdisciplinaire, de recherche sur les interactions entre, d'une part, les activités des hommes et, d'autre part, les systèmes naturels dans lesquels ils vivent et dont ils dépendent pour vivre. C'est donc un programme, disons, essentiellement écologique, pour employer un mot à la mode, mais écologique au sens tout à fait scientifique du terme, pour essayer de savoir, dans les différents types de paysages, que l'on appelle les différents écosystèmes, quelles sont les choses que l'homme peut faire et quelles sont les choses que l'homme ne doit pas faire, pour que ces paysages, ces écosystèmes, continuent à lui fournir les ressources naturelles dont il a besoin.
Quel est donc le but du programme MAB dont l'UNESCO a la responsabilité?
C'est de faire en sorte que les résultats qui découlent des recherches scientifiques pluridisciplinaires puissent réorienter les politiques nationales et internationales en faveur de la sauvegarde et du respect de l'environnement. C'est développer des programmes à la fois à l'échelle locale, nationale et internationale pour faire changer les mentalités. C'est promouvoir une connexion durable entre les humains et la nature.
Vous nous faisiez écouter l'homme à la tête du MAB, Michel Battis, le sous-directeur général du secteur des sciences à l'UNESCO de 1972 à 1984. C'était en quelle année?
C'était il y a près de 50 ans. Le 21 novembre 1975.
Alors concrètement, le MAB, ce programme pour l'homme et la biosphère, comment cela s'organise-t-il au niveau mondial?
Il y a des comités nationaux, des comités internationaux. C'est une réelle coopération internationale, régionale, sous-régionale et par exemple...
Oui, Jean-Mike ?
Oh non. C'est un sujet qui me touche trop. J'ai un trou de mémoire.
Michel Baptiste, peut-être ?
Je crois que, pour être plus clair, je pourrais vous donner un exemple. Prenons, si vous voulez, la forêt tropicale. Bon. Eh bien, je dis la forêt tropicale, il y en a en Afrique centrale, il y en a en Amérique centrale, il y en a en Asie du Sud-Est. Qu'est-ce que l'on peut faire dans la forêt tropicale ? Qu'est-ce que l'on doit faire dans la forêt tropicale ? C'est une question qui se pose aujourd'hui, on cherche justement à mettre en valeur cette forêt tropicale. Eh bien, nous allons, et nous avons fait déjà, nous réunissons un groupe de spécialistes des différentes disciplines qui touchent à la forêt tropicale, pas seulement des forestiers, bien entendu, mais également des médecins, également des agronomes, des biologistes, etc. Et on confronte leurs idées sur le genre de recherche qui devrait être conduite sur les modifications que l'on peut apporter à la forêt tropicale et sur les interactions entre ces modifications et l'homme lui-même. Ça, nous avons fait cela dans une réunion d'un groupe de travail international qui a eu lieu au Brésil il y a déjà bientôt 2 ans. Et puis ensuite, on cherche à définir, dans chacune des 3 grandes régions où il y a la forêt tropicale, qu'est-ce que l'on va faire de façon plus concrète sur la base des recommandations mondiales qui ont été données par la réunion du Brésil. Pour définir ces actions, nous faisons des réunions régionales, alors cette fois, dans chacune des 3 régions. Nous en avons une à Kuala Lumpur, nous en avons une à Mexico et une à Kinshasa, au Zaïre. À chacune de ces réunions, les spécialistes des régions se mettent d'accord sur le genre d'études, non seulement qui devraient être faites, mais dans lesquelles ils sont déjà prêts, ils sont intéressés à s'engager. Ensuite, il faut évidemment aller un pas plus loin et il faut organiser ces études. Et c'est là, évidemment, que les choses se compliquent. Car on s'aperçoit que l'on manque de personnel, que l'on manque d'instruments, mais on essaie de regrouper en quelque sorte les moyens d'action, et ceci se fait en général par la désignation d'un certain nombre de projets pilotes, de zones pilotes, à vocation régionale, qui sont évidemment situées dans tel ou tel pays, mais dans chacune de ces zones pilotes, les pays se mettent d'accord pour y étudier un certain nombre de problèmes. Par exemple, qu'est-ce qu'il va se passer si l'on coupe la forêt tropicale et si on la remplace par du caoutchouc, de l'EVA ? Voilà un exemple.
Et pour préserver cette biosphère, il faut donc un modèle. Le 25 juin 1976, M. Sène, vice-président du conseil du MAB, directeur des eaux et forêts du Sénégal, répond à des questions suite à une mission réalisée à Kinshasa dans le cadre d'une étude sur la zone forestière. À cette occasion, il évoque les réserves de biosphère.
Il faudrait peut-être avoir des éléments qui nous permettent de mesurer les changements qui se passent autour de nous. Si tout ce qui est autour de nous est transformé, tout bouge et il n'y a plus d'éléments de mesure. N'est-ce pas ? Si vous voulez un élément de mesure, il faut qu'il y ait un étalon à partir duquel il faut mesurer. Et les réserves de biosphère sont des éléments qu'il faut chercher à maintenir comme tels, sur lesquels les systèmes originels, la productivité originelle restent les mêmes. Et dans la mesure où elles restent les mêmes, elles nous permettent... en mesurant tous les éléments sur les parties d'écosystème qui changent, de pouvoir voir à quel point ce que nous avons transformé a changé et s'est transformé. Et c'est pourquoi il y a ce réseau de réserves de biosphère qui sont des zones de protection, qui sont représentatives et qui servent donc d'étalon.
Et aujourd'hui, le réseau mondial des réserves de biosphère créé par l'UNESCO compte 738 sites dans 134 pays du monde, y compris 22 sites transfrontaliers.
Ah bon ? J'étais pas au courant, moi.
J'y pense. Croyez-vous que votre aller-retour éclair, là, par avion, pour votre week-end à Porto la semaine dernière, c'était éco-responsable ?
Éco-quoi ? Oui. Moi, je comprends pas ces nouveaux termes à la mode, moi.
Arrêtez! Déjà en juillet 1971, le courrier de l'UNESCO titrait « SOS Environnement, un message de 2200 savants aux 3,5 milliards d'habitants de notre planète ». La lettre sonnait l'alarme et pointait le risque que toute vie s'éteigne sur la planète.
Et en 1972, c'est le Club de Rome qui publie le rapport Meadows. Constat ? La croissance illimitée de la population et de la production matérielle n'est pas viable à long terme. L'humanité va droit dans le mur.
Alors j'imagine que la tâche de Michel Batis au sein de l'UNESCO est grande.
Eh ben oui, mais au final, sans une implication réelle des États, le mur qu'on nous annonce depuis des années est maintenant à quelques nanomillimètres de notre nez. Je me souviendrai toujours de ce jeudi 26 février 1976. Je vois Michel Batis franchir la porte du studio radio de l'UNESCO. Il a le visage grave, s'assoit devant moi et fait signe aux techniciens de lancer l'enregistrement.
Alors que les pays industrialisés qui consomment et même gaspillent la majeure partie des ressources de la planète s'interrogent sur l'avenir, les pays en développement répondent que les véritables problèmes de l'environnement sont ceux de la pauvreté, de la maladie et de la faim, et que seul leur développement industriel, même accompagné de pollution, leur permettra de sortir d'une situation qui leur paraît infiniment plus grave que celle dont se préoccupent les pays riches. En même temps, ils craignent que les mesures de protection de l'environnement et de réorientation de la croissance prise par ces pays industrialisés ne viennent réduire leurs exportations de matières premières ou diminuer l'aide financière et technique dont ils bénéficient. Ils craignent aussi que leurs produits, en particulier leurs produits agricoles, ne puissent plus circuler aussi facilement en raison des mesures protectionnistes que pourraient prendre les pays industrialisés. Ceux-ci voudront en effet soit éviter la concurrence faite à leurs propres produits devenus plus chers à cause des mesures de défense de l'environnement qu'ils prennent, soit refuser par principe l'entrée d'une production effectuée selon des méthodes qu'ils jugent néfastes pour l'environnement. On peut fort bien imaginer qu'un pays industrialisé qui a banni l'emploi du DDT refuse l'entrée de fruits ou de légumes venant d'un pays où l'usage de ce pesticide est encore indispensable dans l'agriculture ou dans la lutte sanitaire. La situation inverse peut d'ailleurs se produire, et se produit en réalité. Pour échapper à des normes anti-pollution, certaines industries peuvent décider d'implanter leurs usines les plus contestées dans d'autres pays, et ainsi d'exporter la pollution. Ce processus ne présente pas de grandes difficultés pour les sociétés transnationales.
Ah, mais c'est pas possible de réentendre cela. Ça me... Non, mais je comprends pas, Gabriela. C'est quoi le plus important, hein? Le profit, le progrès, la croissance ou la maison terre? Dites-moi. Dites-moi, je veux une réponse.
Bon, on va... Chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.
Mais enfin, Jean-Marc, c'est pas possible. Vous pouvez pas craquer comme ça à l'antenne. Tenez, prenez ce café.
Mais j'ai pas le bras. Non, mais c'est la fin, Gabriela. Le Jarimet est trop cupide. Non, on va tous mourir. On va tous mourir.
Oui, mais non, attendez. Tout n'est pas perdu. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Mais je sais pas, moi. Ma vie n'a plus aucun sens.
Et si vous redeveniez micro, comme à la grande époque, quand vous étiez au service de l'UNESCO? Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous dirait?
Hein? C'est possible, ça?
Mais oui, tout est possible. Venez. Allez, Billy, on embarque Jean-Mike. On va trouver quelqu'un pour parler de l'écologie.
Oh, merci, Gabriela. Allez, à moi.
Tiens, je vois une porte ouverte et la photo de Michel Batis posée sur une étagère. Je pense qu'on va pouvoir m'aider. Bonjour.
Bonjour.
Je suis Gabriella. Je cherche désespérément quelqu'un pour me parler d'écologie ici à l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez m'aider ?
Ah oui, vous êtes bien tombée. Vous êtes au sein de la division des sciences écologiques et de la Terre qui abrite le programme MAB.
Et parfait.
Je travaille au programme MAB, donc...
Et comment vous appelez ?
Myriam Bouhamran.
Et alors, vous êtes la chef du programme ?
Je suis chef d'une section qui s'occupe de tout ce qui est recherche scientifique et politique et point focal pour la biodiversité au sein de l'UNESCO.
Est-ce que vous ne seriez pas aussi économiste de l'environnement ?
Je suis aussi économiste de l'environnement.
Qu'est-ce que c'est une économiste de l'environnement ?
Eh bien, c'est quelqu'un qui essaye de réconcilier la conservation de la biodiversité avec son usage durable. En un mot, développement durable. En deux mots plutôt, développement durable.
Tout le projet du MAB, quoi ?
Toute la philosophie du programme MAB, exactement.
Est-ce que je peux m'asseoir ?
Avec grand plaisir, bienvenue.
Bon, je vais aller fermer la porte, ça ne vous embête pas, et puis je m'installe. Madame Bouhamran, qu'est-ce qui vous frappe d'emblée à l'écoute de ces archives et notamment de la voix de Michel Battis ?
C'est assez émouvant d'entendre sa voix et puis c'est très impressionnant de voir, d'écouter surtout, comment ses propos sont d'actualité et sont malheureusement pour certains toujours pertinents et que les problèmes étaient déjà bien clairement posés il y a... Je crois que c'était les archives datent de 75, n'est-ce pas ? Donc vous voyez, ça fait un petit moment que les scientifiques avaient clairement défini les enjeux.
Quelle définition vous donneriez aujourd'hui du MAB et que répondriez-vous à cette question ? Quelle est son utilité ?
Je donnerais toujours la même définition, ça veut dire que c'est toujours un programme international intergouvernemental, hein, donc qui est composé des États membres de l'UNESCO qui travaillent pour ce programme, interdisciplinaire, où on veut vraiment discuter, dialoguer différentes disciplines. Ça, c'était vraiment essentiel. Mais c'est vraiment un programme qui a à cœur de comprendre comment ça fonctionne. D'où l'aspect très important au début du programme de la recherche. Il y a toujours de la recherche. Ce qui a peut-être évolué, c'est que grâce, les archives sont à la veille de la création des premières réserves de biosphère en 76. Et ces réserves de biosphère, ce sont des territoires de vie, vivants, où les chercheurs, justement, prenaient le temps d'observer, de comprendre les interactions, M. Battis l'a dit, le mot est toujours présent, interagir, entre les êtres humains, nous, et les écosystèmes et les autres espèces. Mais en fait, maintenant, ce qui a évolué, c'est que de plus en plus de personnes, au-delà du monde scientifique, se rendent compte que la manière dont nous, les humains, on interagit avec les autres espèces du monde vivant, eh bien, est préjudiciable, non seulement aux autres espèces, mais également à nous-mêmes. Et là encore, M. Battis l'a dit, cette indépendance, cette interdépendance que nous reconnaissons de plus en plus. On est complètement interdépendants, non seulement les uns des autres, mais également du monde vivant. Notre nourriture, l'air, l'eau, tout ce qui nous permet d'être en vie provient des écosystèmes. Donc en détruisant cette biodiversité, ces écosystèmes, c'est la vie elle-même qu'on détruit, et nous-mêmes. Donc le pari de l'UNESCO, notamment à travers les réserves de biosphère, c'est si l'humain est responsable, bah l'humain peut changer cette trajectoire, et peut passer de destructeur à protecteur, à gardien de cette biodiversité, comme on le voit non seulement au sein des réserves de biosphère, mais également dans des communautés locales et autochtones, qui représentent une toute petite partie de la population mondiale, mais qui gère 30%, si ce n'est plus, de la biodiversité mondiale.
Mais concrètement, vous parliez de recherche et aussi de solutions qui avaient pu être apportées. Qu'est-ce que le MAB a pu apporter concrètement comme changement, comme solution ? Quels sont ses leviers ? Est-ce qu'il a vraiment un impact auprès des politiques, puisque c'est ça aussi dont il est question, de ses États membres ?
Oui. On a des exemples très concrets basés sur les territoires réserves de biosphère. Il y a par exemple des lois qui ont été créées pour inscrire le développement durable et les territoires comme les réserves de biosphère comme des modèles à l'échelle nationale comme en France, dans la loi biodiversité. Vous avez les réserves de biosphère qui sont reconnues comme modèles d'aménagement et développement durable. Il y a d'autres pays comme en Espagne, comme en Estonie, qui ont inscrit la catégorie réserve de biosphère comme modèle d'aménagement du territoire pour le développement durable. L'objectif, c'est de montrer qu'on peut vivre, y compris dans des zones urbaines. Hein, il y a des réserves de biosphère qui incluent des villes, des grandes villes. On peut citer par exemple Dublin, qui est la capitale de l'Irlande. Une bonne partie de Dublin fait partie d'une réserve de biosphère. Très concrètement, les solutions pratiques, ça va être des modes de circuit d'alimentation courts, la récupération des déchets, des programmes d'éducation pour les enfants dans les écoles. En fait, tous les grands enjeux de transition écologique auxquels on est confronté actuellement, que ce soit au niveau de l'énergie. Par exemple, il y a des réserves de biosphère qui font le pari d'être autonomes au niveau énergétique sans passer par le pétrole. C'est le cas d'Aliero en Espagne où on va avoir un programme au niveau de toute l'île en énergie renouvelable. Donc énergie, alimentation, circuit court, de la formation, de la recherche, la restauration d'écosystèmes, comment on fait pour restaurer des mangroves. On a des exemples au Vietnam où on a réussi à restaurer des écosystèmes qui ont été perdus, notamment à cause de la guerre. Comment on fait, quelle technique, quel savoir-faire pour replanter des mangroves dans des territoires qui ont été dévastés pour différentes raisons. Il y a une créativité, il y a des manières de vivre sur cette terre qui sont différentes de ce qu'on peut expérimenter maintenant, mais qui sont déjà en marche et qu'on pourrait, comme on dit en anglais, mettre à l'échelle ou partager à une plus grande échelle. C'est ce qu'on essaie de faire à l'UNESCO. Donc on intervient à différents niveaux et on parle avec tout le monde. Et il est important que le secteur économique et financier et bancaire investisse dans la véritable richesse qui est le vivant. Et je pense qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a une pression aussi des sociétés. Il y a les accords internationaux qu'il faut respecter. Et il y a aussi, je dirais, peut-être la véritable question, c'est une question de valeur et de quelle société on veut être et créer. Et là, je vois que les nouvelles générations, la jeunesse, celles qui protestent dans les rues, mais celles aussi qui refusent des emplois, on le voit, hein, comme en France, où des jeunes ingénieurs disent non, on ne va pas travailler dans cette entreprise si vous ne respectez pas la planète. Donc tous ces changements-là qui sont en train de s'opérer sont des signes inspirants, positifs, que quelque chose est en train de se passer. Oui, il faut accélérer, mais il y a des solutions, et c'est un peu le message de l'UNESCO.
Retrouvez l'intégralité des archives de cet épisode sur le site fr.unesco.org. Les grandes voix de l'UNESCO, un podcast qui vous plonge dans l'histoire de l'UNESCO. Avec la participation de Myriam Boimran. Avec les voix d'Hortense Vol et Soro Solo. Prise de son Xavier Gibert, Raphaël Cousseau et Benjamin Sarallier. Assisté de Nils Bertinelli. Montage et mixage, Mathias Taylor. Écriture et mise en onde, Charles-Henri Despeignes. Production et coordination, Xavier Gibert, RFI Labo.